When did you arrive? When did you arrive?
The robbers.
It's like I'll be dragging this afternoon more than I was on Saturday. Maybe it's just kind of catching up to me. Of course, I'm leaving tomorrow.
Oh, really?
Yeah. The only thing I was here for was all the things on Sunday and then the EWG discussion today. So now that that's done, there's that sending them home. They don't like keeping a lot of people around here for extra days, particularly when I've already got a pretty hefty policy people working
around.
So yeah, like I said, I'm probably just now getting used to the time change. You know, I get to go home and deal with it. I imagine you're here all week.
I've been here since Thursday, and I'm here on Friday, yeah. Okay.
Nice to see you again.
We went over to look from
Is Jeff going to introduce, do you know Jeff Moss? Chief Security Officer. Okay. Thank you.
I'm devastated.
What?
No,
don't tell me if you're dead. I'm very.
Oh.
What's for lunch tomorrow?
Ladies and gentlemen, please.
Mesdames et messieurs, veuillez s'il vous plaît souhaiter la bienvenue au responsable de la sécurité de l'ICANN, monsieur Jeff Ross. Eh bien, nous avons besoin de micro, voilà. Eh bien, nous allons commencer notre séance sur la sécurité des nouveaux GTLD, stabilité et résilience, mise à jour aujourd'hui. Nous allons vous donner un point de vue sur le travail de l'ICANN et de la communauté. Comment nous gérons donc ces nouveaux GTLD par rapport à leur sécurité? Nous avons plusieurs personnes ici. Nous avons donc plusieurs présentations. À la fin de la séance, nous aurons la possibilité de répondre à vos questions. Et j'espère que nous aurons un débat productif sur ces sujets. Donc, je veux que ça soit très interactif comme débat. Donc, notez vos questions et nous y répondrons par la suite. Nous avons sur ce panel, cette table ronde, nous avons Christine Willett, nous avons le vice-président de l'IANA, Louis Guérec, de VeriSign, Dennis McPherson, directeur des opérations DNS, Joe Eagley, directeur senior de la stabilité de la résilience, John Crane, Nous avons également le responsable de l'ISAC, Patrick Forsham. Nous avons le chef rétrophrénologiste de Google. Et nous avons Steve Chan également. Donc Warren Kumori et Steve Chan, qui est analyste technologique à l'ICANN. Donc une nouvelle fois, vous savez que la mission de l'ICANN est de coordonner au plus haut niveau le système mondial de l'Internet. Comme vous le savez, cela fait partie du règlement intérieur de l'ICANN. Cela a été amendé récemment, le 20 décembre 2012. Nous sommes là pour coordonner ces systèmes Internet avec des identifiants uniques, en particulier s'assurer d'une opération stable et sûre du système d'identification de l'Internet. Ça, c'est les premiers paragraphes que nous prenons très au sérieux. C'est notre mission, c'est la mission de l'ICANN, c'est notre raison d'être. Nous sommes dans un système unipartite. Nous essayons de faciliter la sécurité, la stabilité et la résilience de l'Internet et de ce système d'identifiant unique par l'intermédiaire d'une grande coordination et collaboration. Et évidemment, ce rôle est limité aux fonctions et de missions techniques de l'ICANN. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, nous allons nous concentrer sur le nouveau programme des GTLD. Nous avons trois rôles que j'aimerais définir. Gérer donc au sein de l'ICANN. L'ICANN a une responsabilité opérationnelle. Par rapport à la communauté également, nous devons coordonner les choses. Et enfin, par rapport à la communauté mondiale, nous essayons de faciliter un dialogue et un consensus, l'obtention d'un consensus. Donc, opérer, coordonner, faciliter. C'est notre modèle. Il est assez clair que on ne peut jamais obtenir une sécurité à 100%. Il y a toujours des risques qui existent. Donc, la sécurité, c'est de gérer des risques. Et en tant que professionnel, nous devons voir quels sont les risques et quelles sont les gratifications que nous pouvons obtenir. Nous devons limiter les menaces qui font, ça fait partie de la gestion des risques. Nous voyons l'impact des différents problèmes et voir la probabilité du risque. Nous avons besoin de processus en place pour des risques inconnus. Nous savons que cela peut arriver avec les nouveaux GTLD. On doit donc être flexible, résilient et avoir un processus adaptable avec uniquement l'ICANN ou avec toute la communauté. Donc c'est pour cela que je veux la participation de la communauté, parce que c'est à nous tous de gérer cette sécurité, de régler les problèmes. L'ICANN ne va pas être en position de résoudre magiquement tous les problèmes qui se posent. Le système DNS dont nous parlons est un écosystème tout à fait complexe, mais quand même relativement connu. Ça fait des dizaines d'années que nous avons d'expérience dans le cadre du DNS, des systèmes de nom de domaine. Et la collectivité a de nombreuses années d'expérience. Nous avons survécu Quad A, TSIC, DNSSEC, l'IPv6, le DNNSO, les nouveaux IDN. Et ça fait des années que nous travaillons à ce déploiement, à cette évolution. Le serveur racine ne s'est pas écroulé. Nous avons géré également la transition de BGB Anycast. Et je crois que le serveur racine s'en est vu renforcé. Donc, nous avons eu des problèmes, nous aurons des problèmes, nous les gérerons ensemble et nous poursuivrons notre tâche et notre chemin. Ça donc, c'est quelque chose que Fadi nous avait présenté et je voulais attirer l'attention là-dessus, en bas. Vous avez le SSR. Ça, c'est pour vous montrer qu'à tous les niveaux de l'ICANN, nous reconnaissons que la stabilité et la résilience de l'Internet est notre mission essentielle, je le dis et je le répète. Donc, nous n'allons rien faire qui va mettre en cause la stabilité et la résilience du DNS et de notre système Internet, de notre nom de domaine. Christine Willett, a fait une séance juste avant la nôtre. Je vais laisser la parole à Christine qui va nous parler un petit peu de cela. Donc, merci beaucoup, Jeff. Donc, cela nous montre un petit peu tous les blocs qui existent pour le programme GTLD. Cela commence avec les dossiers de demande qui sont arrivés en juin. On a eu un système de priorisation. Nous avons une évaluation des différents dossiers de demande. Et nous avons donc d'autres blocs qui se rajoutent. En bleu, nous avons la phase contractuelle à partir du 13 avril. Une fois que les dépositaires de dossiers passent par les contrats, on passe par des tests de prédélégation, ensuite délégation totale. Ils connaissent bien leurs responsabilités, leurs programmes, leurs problèmes, les problèmes à gérer. Et il y a une notification de l'IANA qui est en voie d'avancement. Il y a donc le phénomène d'authentification, d'homologation par rapport à l'IANA, la délégation donc totale par rapport à l'IANA. Nous avons ensuite ce système de clearinghouse, de bureau central, de dépôt des marques. Nous allons mettre cela. Cette fonctionnalité sera donc rajoutée à partir du 1er juillet, puis au mois d'août. Nous aurons l'URS, la suspension rapide uniforme, qui sera disponible et opérationnelle à la fin du mois de juillet. Le système Ibero, donc d'urgence, sera opérationnel au 1er août et le système SLA de suivi sera opérationnel au 1er août. Donc ça, ce sont des éléments qui sont décrits dans notre guide d'utilisation, dans notre manuel. Ça, c'est notre calendrier pour les nouveaux GTLD. Merci beaucoup. Donc, une fois qu'on est prêt au niveau opérationnel, une fois qu'on est passé par toutes ces étapes, il est maintenant temps de déléguer à l'IANA ces nouveaux GTLD. Et pour parler de cela, nous avons le responsable, vice-présidente de l'IANA, Élise Gerich. Élise, vous avez la parole. Oui, j'aimerais remercier Christine et toute l'équipe de l'ICANN. Par rapport à l'IANA, déléguer les GTLD, ce sont des procédures standards. Il y a quelques points que nous devions faire pour nous préparer. Donc, 5 fois plus de GTLD qu'aujourd'hui. Donc, ça, c'est assez important. On doit améliorer le système de fondation que nous avons actuellement, le système de fonctionnement. Et nous avons travaillé à cela pour améliorer notre serveur racine avec VeriSign, par exemple. Nous avons travaillé étroitement, collaboré pour s'assurer que lorsque les dossiers de demande arrivent, lorsqu'il y a cette demande de délégation sur les serveurs racines, que tout se passe bien. Nous devons également passer des différents rapports, rapports narratifs qui étaient soumis pour tous les critères. Nous devions passer à un système de liste de contrôle. Nous travaillons donc étroitement avec l'équipe de Christil pour s'assurer que cela soit fait en temps et en heure. Nous avons rajouté également du personnel. Donc, nous allons passer au transparence suivant. Donc, à la base, comme je l'ai dit, j'ai parlé d'automation, d'automatisation. Nous avons mis en place un nouveau flux de travail. Avant, nous avions que peu de noms de domaine, que peu de GTLD. Donc, c'était assez facile à gérer. Maintenant, nous avons besoin de prioriser les choses parce que nous avons beaucoup plus de GTLD. Nous avons un processus. On a terminé des tests la semaine dernière et nous avançons vers la production au 1er mai. Donc, tout se passe bien pour le moment puisque nous collaborons étroitement avec les différentes parties prenantes. Donc, maintenant, cette approche liste de contrôle pour la délégation. Il y a plusieurs évaluations, plusieurs panels d'évaluation. Christine en a beaucoup parlé durant l'heure précédente. Vous êtes bien au courant maintenant. Donc, de toute façon, vous passez par ce processus. Vous terminez tous les panels et on coche la case de la liste de contrôle. Et une fois que tout est positif, tout est coché, eh bien, vous obtenez votre homologation et vous pouvez être en ligne et demander à ce moment-là d'avoir la délégation et le déploiement par rapport à l'IANA. Donc, ça, c'est un prototype sur le site web de l'IANA. Ça ressemble à ça bientôt. Ça dit déléguer un nouveau GTLD. Ce que ça nous explique en bas, c'est que vous mettez votre chaîne en bas. C'est un exemple, point exemple. Et vous notez le numéro d'homologation que vous avez reçu. Et à ce moment-là, vous pouvez lancer le processus de délégation à l'IANA. Et ce que nous faisons, c'est pour tous les GTLD, nous faisons un contrôle technique pour nous assurer que ça fonctionne bien. On appelle tous les contacts pour s'assurer que ces contacts sont valides et existent véritablement. C'est une procédure standard et je dois vous assurer que nous prenons cela très au sérieux. On travaille très étroitement avec VeriSign et TIA, avec nos partenaires, avec toutes les équipes GTLD. Le système d'automation au 1er mai sera tout à fait prêt. Je vous remercie. Très bien, merci. Donc, une fois que la délégation est achevée, j'aimerais parler un petit peu du service de racine pour les nouveaux GTLD. Il y a eu beaucoup de questions pour les mesures, l'évaluation, le suivi, l'échelle. Joe Ebriard est responsable des opérations DNS. Et j'ai l'impression qu'il va demander à quelqu'un de VeriSign de prendre la parole également. Donc, voilà où nous en sommes. Oui, merci beaucoup, Jeff. Donc, ce que nous avons ici, c'est quelque chose que vous connaissez bien, c'est le trafic de l'Internet. Ça, je ne sais pas si on va avoir plus de trafic avec plus de GTLD. On a toujours de plus en plus de trafic sur l'Internet. Donc, ce que nous avons ici, c'est la croissance de la zone racine. Ça fait 10 ans que vous voyez sur ce transparent. Et on voit une centaine de TLD qui ont été rajoutés ces 10 dernières années. Donc, ça reste une zone très limitée. Donc, il y a certaines inquiétudes. On a pas mal d'expérience. On a augmenté le nombre de GTLD, mais on ne l'a jamais augmenté autant. Donc, on ne sait pas exactement ce que cela va donner. Donc, il est important d'être conservateur pour notre serveur racine. Donc, Danny, vous pensez que c'est assez exact? Qu'en dites-vous? Vous voulez rebondir là-dessus, réagir? Oui, c'est tout à fait exact ce qui a été dit. Je crois qu'on peut observer que ces dernières 14 années, 67 ou 68 délégations ont été effectuées. Et maintenant, on va accélérer. Il y en aura peut-être plusieurs par jour à certains points. Donc, 4 ou 5 en 36 heures. Donc, vraiment, il faut être bien conscient de cela, il faut être prudent, il faut prendre un peu de recul et réfléchir en 2009 à ce qu'on a fait. L'ICANN a fait une enquête, une analyse sur les capacités et les implications que cela a sur le système du serveur racine. Donc, ce que l'on a noté, principalement, eh bien, c'est la capacité à bâtir des lignes de base dans le système et dans toutes les racines. Ça dépend du nombre de demandes. Ça, c'est pour les clients de l'Internet, pour les utilisateurs de l'Internet. Comment est-ce que cela fonctionne? Est-ce qu'on est satisfait du fonctionnement? Donc, lorsque l'on va accélérer véritablement avec les nouveaux GTLD, qu'est-ce que ça va donner? Il y a eu des recommandations qui ont été faites de TAC 46. TAC 46, par exemple, a parlé d'un besoin de système d'avertissement. Donc, on travaille beaucoup au niveau de ce serveur racine. je crois qu'on peut encore améliorer les choses au niveau technique. Attends. Un instant, oui, je crois que tu n'as pas à tout dire maintenant. On va revenir vers toi d'ici peu. Oui, non, vraiment. Dans l'analyse SAC 46, il y avait un critère par rapport à l'ICANN. On a besoin de beaucoup de visibilité. On a besoin d'une bonne performance de tous les systèmes. Et je crois que les recommandations de l'ISAC et l'équipe SAC 46, c'est que on allait avancer avec ces nouveaux GTLD, mais on allait le faire d'une manière intelligente. Je crois qu'avant d'accélérer à fond, il faut être prudent et s'assurer que notre moteur fonctionne bien. Donc, on reconnaît tous les éventuels problèmes qui pourraient se poser. Merci beaucoup, Dani.
Merci, Dani. Joe, je pense que tu as quelques statistiques à partager avec nous. Il y a eu des mesures à partir d'indicateurs et il semblerait que nous puissions dire que la situation est assez stable. Il y a des indicateurs qui ont été collectés par les différents opérateurs du serveur racine pour voir quelles étaient les performances de la racine. Comme Dani l'a bien dit, il faut établir une ligne de base pour savoir comment on fonctionne et qui se passera avec la croissance, avec l'introduction des nouveaux GTLD. Et à ce moment-là, il faudra voir quelles sont les solutions à mettre en place pour pouvoir faire face à l'introduction de ces nouveaux GTLD. C'est un système sûr qu'il faut gérer de façon conservatrice. Le 13 avril, nous avons commencé à publier les données collectées auparavant, pendant les deux mois précédents, sur la base de la recommandation, la version préliminaire de recommandation de notre liaison Peter Koch auprès du RSSAC. Ici, nous voyons un exemple. Ici, cette annonce montre les statistiques qui vont être mises à jour une fois par semaine. Tout le monde peut les voir pour faire un suivi des différents aspects de la racine L, ainsi que les indicateurs recommandés par le RSSAC. Voilà donc les premières statistiques publiées. Mais nous savons que d'autres statistiques seront publiées appartenant à d'autres racines, non seulement la racine L. Nous voyons ici un schéma qui montre les données de deux bases de données, ce qui démontre que le temps qui nous prend de distribuer une zone racine, c'est à peu près 300 nœuds newcast globalement dans certaines zones où il n'y a pas beaucoup de connexions. Et le temps donc de connexion est d'environ 4 secondes. Nous allons bien entendu voir que ces schémas se modifient, car il faudra distribuer une nouvelle zone dans l'Internet et que cela va provoquer des variations quotidiennes. Ce qui est important, c'est de faire un suivi de ces données au fur et à mesure que le temps passe et que l'on s'approche du moment de la délégation et pour voir après la délégation ce qui se passe avec les délais de délégation au niveau de la racine. Nous avons un délai de distribution de 4 secondes pour une zone distribuée il y a 2 jours. 4 secondes sur 2 heures, c'est pas beaucoup. Jusque-là, c'est là où nous en sommes actuellement. Jeff Moss prend la parole. Joe continue. Nous avons ici la taille de la zone racine mesurée à partir de différents indicateurs. On a bytes ou kilobytes. Ce que vous voyez en juillet 2010, voyez la signature de la zone racine. Pour voir quelles sont les clés de la signature dans l'expansion de la zone racine. Voilà en ce qui concerne la zone racine et sur la ligne orange, on voit que des modifications sont à prévoir au fur et à mesure que les nouveaux GTLD seront incorporés. Je vais donc passer la parole à John Crane. John Crane prend la parole. Je souhaiterais vous montrer d'autres statistiques que nous avons dans notre système de serveurs racine. Il y a un programme que l'on a, qui est géré par l'opérateur RIP NCC en Europe. C'est un programme à l'échelle mondiale. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir sur le transparent, c'est la racine L, mais cela est fait avec tous les serveurs. Ici, dans ce cas, on voit la racine L. On voit les délais de consultation à la racine L. Avec quelle vitesse nous pouvons le voir? Chacun de ces nouveaux nœuds nous permet de faire un suivi de ces informations et de les incorporer dans une base de données. C'est une façon graphique de montrer ces données, de montrer ces mesures que l'on fait. Il y a quelques années, cela fait quelques années qu'on collecte ce type de données. C'est une tierce partie, c'est ni l'ICA ni le serveur Racine qui fait cette collecte de données. C'est un tiers qui fait cette collecte de données que nous sommes en train de partager. Nous sommes en train de parler des statistiques de la racine L et nous voyons donc le format. Quel est le format des données que nous avons présentées? Je ne vais pas parler de tous les serveurs racine, on y reviendra. Mais je vais vous montrer les routes des serveurs racines et les statistiques publiées par ces serveurs. Il y a des interfaces publiques de ces serveurs auxquelles vous pouvez accéder pour pouvoir consulter ces statistiques. Ce n'est pas vraiment dans le format du RSAC. Il ne s'agit pas seulement de la façon de savoir comment nous collaborons. Par exemple, pour la racine F, nous avons des responsabilités et tout comme l'ICANN, nous avons des lettres d'intention pour savoir comment avancer. Nous sommes responsables dans ce domaine et nous nous engageons à collaborer. Il y a d'autres sites web où vous voyez ce type de collaboration. Ces opérateurs de serveurs Racine assistent aux réunions de l'ICANN. Il s'agit de gens responsables qui participent au comité consultatif. Vous allez les voir de plus en plus dans ces réunions. Mais il s'agit des gens qui se consacrent notamment à l'opération ou la gestion du système de DNS. Ils se réunissent tous les 3 ans pour discuter de sujets opérationnels. Jeff prend la parole. Ils font des tests sur les systèmes de réponse. Oui, ils établissent des collaborations. Par exemple, nos amis de VeriSign sont des partenaires qui contribuent au financement de certains projets. Donc, nous avons vu ce type de collaboration par le passé. Internet continue de fonctionner. C'est pourquoi nous savons que rien ne va disparaître quand les nouveaux GTLD vont être introduits. Jeff, si tu veux ajouter quelque chose. Dani prend la parole. Je voudrais ajouter un élément. Nous ne voyons pas la racine A et J qui sont opérées par VeriSign. Et notre intention est de faire en sorte que dans la deuxième moitié de l'année, nous puissions avoir des sites web avec des informations publiques de ces statistiques. En ce qui concerne les aspects contractuels, nous avons passé un contrat avec le département du commerce des États-Unis. Et dans notre lettre d'intention, il y a beaucoup d'éléments qui concernent nos responsabilités. Nous avons 1385 contrôles ou vérifications de notre activité par le biais d'audits qui vérifient la sécurité de notre travail. Il existe de vérifications continues de notre travail. En ce qui concerne les obligations contractuelles avec l'ICANN, et ces données sont publiées. John. John prend la parole. Ces cartes montrent les serveurs racines. Cette carte semblerait une carte avec laquelle nous sommes un peu plus familiarisés, qui montre la distribution des serveurs racines. Parfois, on s'inquiète par rapport à la capacité des serveurs racines. Je peux vous dire que la racine, elle, a une grande capacité. Elle a 300 nœuds et chacun de ces nœuds possède une capacité très, très importante. Nous avons beaucoup d'infrastructures pour pouvoir gérer ces opérations. Si on voit la situation d'ici 6 mois, on envisage une multiplication de ces infrastructures. Il y a eu plusieurs évolutions par rapport aux serveurs racines. On n'en avait que 30 et cela évolue de plus en plus. Nous allons continuer avec cette évolution pour pouvoir être en mesure de faire face aux changements qui vont arriver. Jeff Moss prend la parole. Nous allons parler maintenant de l'approche de l'ICANN en ce qui concerne les sujets les moins connus. Il s'agit de points qui ont été soulevés ou de difficultés qu'on a pu rencontrer et auxquelles nous sommes confrontés et auxquelles il faut donner une réponse. Nous allons donc parler d'un rapport, le SAC 057, qui va illustrer la façon dont l'ICANN envisage de traiter cette situation. Je vais donner la parole à Patrick Falstrom. Il est président du SAC. Patrick Falstrom prend la parole. Merci. Avant de passer la parole à mon collègue, je vais vous expliquer un petit peu comment nous sommes arrivés à ce rapport. Tout d'abord, ESSAC se base sur des actions et cela peut être déclenché par des actions extérieures ou par des notifications du conseil d'administration. Mais parfois, il existe des actions où une personne de ESSAC décide de couvrir un sujet déterminé. Il s'agit, dans ce cas, le cas qui me concerne, d'un sujet qui est né au sein du ESSAC. Warren, je ne sais pas très bien ce que tu as fait quand tu as commencé à traiter cette question, mais on en a beaucoup parlé. Un autre aspect de ce rapport spécifique concerne le fait qu'il s'agit de difficultés que l'on doit identifier lorsque l'on fait une recherche et que l'on fait une analyse de risque. Et nous savons tous que, indépendamment de la profondité du rapport et la profondeur, pardon, du rapport, il s'agit de questions difficiles qu'il faut identifier. Il est donc important de identifier quels sont les problèmes. Nous devons donc pouvoir être préparés et dans ce cas en particulier, nous avons pu identifier une difficulté et nous avons essayé d'être préparés pour pouvoir le résoudre. Ce rapport, on l'a transmis à l'équipe chargée de la sécurité de l'ICANN car nous avons pensé qu'il s'agissait d'une difficulté sérieuse et que c'était à l'ICANN de décider de sa publication. Il y a plusieurs aspects qu'il a fallu améliorer dans ce rapport. Et nous avons aussi eu les contributions de la communauté. Je vais donc passer la parole à Warren pour qu'il vous décrive un petit peu de quoi traite ce rapport SAC 57. Je vais aller très vite, dit Warren. J'ai beaucoup d'informations. Quand on fait une SSO ou une connexion sur par le biais d'un HTTP, le navigateur reçoit une clé publique qui est cryptée. Et cette clé publique est incluse dans un certificat qui est certifié par une autorité de certification qui est signée. La signature de cette autorité sert à vérifier l'identité. Quand le navigateur commence à utiliser, il s'assure que la signature est correcte et que cette signature fonctionne correctement, que le certificat est valable, qu'il n'a pas expiré. Et le système s'assure aussi qu'il y ait une connexion à ce certificat. Lorsque le CA livre le certificat, il doit tout d'abord le valider. Comment le CA fait cette validation, notamment avec les certificats? Un courrier électronique est envoyé à une adresse, par exemple weightmass.com, avec une adresse email qui existe déjà dans le quiz, et ce courrier électronique contient un ticket. La personne qui reçoit l'email répond à ce CA, répond à CA, et CA, à ce moment-là, fait sa vérification. Il y a aussi d'autres types de certificats qui s'appellent des certificats internes et ils sont conçus pour faire d'autres types de vérifications. Par exemple, Microsoft Exchange, Active Directory et l'identité de ces serveurs, c'est .corp ou www.test ou account. Il s'agit de certificats qui sont différents. Et dans ce cas, l'identité ne décrit pas ce qui se passe avec le TLD. Cela veut dire que le CA ne peut pas envoyer ce courrier de validation. Que se passe-t-il alors lorsque l'étiquette interne devient un TLD? Une fois que cela est délégué, que se passe-t-il? La réponse la plus courte consiste à dire qu'il se passe quelque chose de pas bien. Le certificat est cherché depuis www.site. Cela doit être validé par une personne, .skip.search. La diapo suivante. Et puis, si j'ai présenté ma demande à .ca, j'ai fait ma requête à .ca, et il m'envoie un message en disant qu'il doit y avoir un www.site. Il y aura une alerte et 3 ou 4 heures après, je vais recevoir un courrier électronique et là, vous allez pouvoir voir le nom de l'organisation, c'est moi, le thème. Nous ajoutons un nom supplémentaire, www.site et puis quelque chose d'autre, .site. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec tout cela? Moi, j'ai délégué .site à moi-même et par la suite j'ai établi un serveur web. J'ai navigué par Safari et je me suis assuré que l'icône avec le petit cadenas apparaisse. À ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était valable, que ça fonctionnait. Je l'ai fait aussi avec Chrome, avec Firefox, avec Explorer. Alors, quelles sont les autres implications de cela? Je peux avancer, voir la liste de TLD auxquels j'ai appliqué ce système et je reçois un certificat pour ces TLD. Je dois faire confiance à ce certificat et attendre que le TLD soit délégué. Une fois que cela se passe, la personne va à un Starbucks, à un hôtel ou à une autre personne qui possède un HSSP. Lorsqu'on navigue dans ces sites, on voit apparaître l'icône avec le petit cadenas. Et à ce moment-là, on fait l'opération avec de l'argent. Nous avons des recommandations. Dans le forum CA, ce sont des industries qui représentent le CA. Il doit y avoir une politique de débat sur la façon d'agir avec cette information pour bien communiquer avec les parties, avoir un plan d'urgence, etc., avant de procéder à la délégation. Et maintenant, je vais donner la parole à l'équipe de sécurité qui va nous expliquer comment il fonctionne. Jeff Moss prend la parole. Je passe la parole à Steve Chain. Merci, Jeff. Steve Cheng prend la parole. Avec le SSAC, nous avons pris cette question très au sérieux. Et après le rapport de la téléconférence, nous avons constitué une équipe de atténuation qui s'est réunie avant le rapport de SSAC. Entre janvier et février, nous avons eu plusieurs téléconférences avec le président du CBA. La plupart des SA ont été avertis par rapport à ces difficultés et ils nous ont invités à en parler dans une réunion en février. C'est là que nous avons présenté formellement cette question. Ils ont pris cette question très au sérieux et je souhaiterais dire que cette question des certificats de nom interne en 2010... On les a vus apparaître déjà en 2010. Dans ces cas, les CA ont agi de façon très rapide. La date clé, c'est le 20 février. Il y a eu un vote et cela a été approuvé. Et donc, ce vote a permis de réduire le degré de vulnérabilité. Après, une recommandation a été faite au SSAC et une notification a été envoyée à tous les nouveaux candidats, les candidats au nouveau GTLD. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ballot 16 a recommandé au CA d'arrêter les certificats internes et 30 jours après l'approbation d'un TLD, l'ICANN signe un contrat avec les opérateurs et les CA doivent arrêter l'émission de ce type de certificat. Après la publication d'un contrat, les CA doivent révoquer chacun de ces certificats. Avec un nouveau suffixe de TLD. Après les obligations, nous envoyons un service de notification au CA pour leur informer quelles sont les chaînes de caractères qui font l'objet de candidatures. Et lorsqu'un contrat est signé entre l'ICANN et un opérateur TLD, nous envoyons une notification au CA pour les aider à respecter ces délais. Il existe des risques. Nous allons en parler dans les prochaines diapos et je vais vous dire comment nous envisageons de les atténuer. J'invite la communauté à faire sa contribution également. Le premier risque que nous identifions, c'est que nous attendons que la plupart des autorités de certification respectent ce ballot 96. Il est possible que certains CA ne respectent pas le ballot 96 jusqu'à ce que cela devienne une exigence de audit. Par exemple, pour WebTrust, pour l'Amérique du Nord, ou ETSI, c'est des standards européens, tous les CA doivent être inclus dans la liste racine. Nous communiquons donc ces risques. Nous travaillons activement avec les différentes parties qui peuvent nous aider à les atténuer. Certaines des partenaires avec lesquels nous travaillons, ce sont les navigateurs. Pour qu'ils puissent avoir une action proactive lorsqu'ils demandent au CA de respecter le ballot 96, nous pensons que ces risques doivent être atténués. Le deuxième risque concerne le fait que certains navigateurs ne vérifient pas en temps réel ces certificats ou ces révocations. Il pourrait se passer qu'un CA révoque un certificat, mais si le navigateur ne le certifie pas ou ne le valide pas, il y a un risque de penser que ce certificat reste valable. Il existe donc un risque que nous devons communiquer. Nous discutons avec les navigateurs pour voir comment on peut aborder ces difficultés de la meilleure façon. Il y a des propositions qui ont été faites et le débat est vraiment très riche.
Il est toujours possible qu'il existe une vulnérabilité entre la signature du contrat et l'activation au deuxième niveau. Donc cela vous montre sur l'écran le calendrier. Si vous comptez 120 jours, 17 semaines, donc première semaine, semaine zéro, c'est la signature du contrat. Ensuite, nous avons les tests de prédélégation, délégation, une à deux semaines. Nous avons donc notification, une période de 30 jours. Et nous avons ensuite la période d'activation du domaine de deuxième niveau. Donc, il existe toujours une certaine vulnérabilité à ce niveau. Et on a besoin des réactions de la communauté en tant que coordinateur. Comment limiter ce risque? Comme Jeff l'a mentionné auparavant, c'est très difficile d'anticiper tous les risques qui peuvent se poser dans cette procédure. Je vais redonner donc la parole à Jeff, qui va nous parler donc de cette gestion des risques. Oui, c'est difficile à lire, mais ça, c'est un diagramme de flux sur la vulnérabilité. Et c'est un processus de l'ICANN qui a été publié le mois dernier. Nous l'avons appliqué à SAC 56. On veut s'assurer que cela fonctionne bien. Et à l'avenir, c'est la manière dont nous gérerons ces problèmes de vulnérabilité et nous divulguerons donc les problèmes de vulnérabilité. Donc pensez en ces termes. Vous voyez un problème avec le logiciel du serveur racine et vous divulguez cette information auprès de l'ICANN. Vous utilisez ce processus pour déterminer comment vous divulguez ces informations aux parties prenantes concernées. Peut-être que c'est au niveau d'une application web que vous trouvez cette vulnérabilité. Vous trouvez un problème. Comment allez-vous parler de ce problème? Est-ce que vous allez publier mon nom? Est-ce que ça va être transparent? Je ne veux pas que mon nom soit connu, public, rendu public. Donc comment est-ce que l'on divulgue nos propres vulnérabilités? Alors, comment on notifie toutes les parties prenantes, toutes les parties concernées? Est-ce qu'il y a un contact direct entre toutes ces parties prenantes ou pas? Voilà, donc. Et ça, c'est un nouveau graphique que nous avons publié dans notre SSR à la communauté. Je ne sais pas si vous l'avez encore vu. C'est la prise de conscience des risques. Ça visualise comment l'ICANN a une approche pour la communication des menaces auprès de la communauté. Donc ça, c'est notre dernier transparent de la présentation. Je suis sûr que vous avez noté vos questions pendant ces présentations et que vous allez maintenant vous approcher des micros. Je sais qu'on a des représentants dans la salle, oui. Oui, je voudrais dire quelques mots supplémentaires avant que l'on passe aux questions et quelque chose d'important à dire sur le transparent numéro 45. Je crois qu'il y a un point de détail que je ne voudrais pas oublier. Oui, c'est le 44, pardon. Oui, ce que je voulais souligner ici, je crois que Ron l'a dit au CCNSO, ou à une réunion LAG, je ne crois pas qu'il y ait un accord véritable à ce sujet. C'était une réunion à LAC, pardon. Est-ce que c'est acceptable ou pas? Je ne sais pas qu'on. Je ne crois pas qu'on soit tous d'accord là-dessus. On en a parlé au SAC. De plus, il me semble que la fenêtre de vulnérabilité n'est pas connue. Il faudrait attendre 2016 parce que il y a beaucoup de dossiers qui ne sont pas complets. Donc, on peut avoir des attaques informatiques. Donc, je crois que Jérémy en a parlé un petit peu. D'ailleurs, au CNSO, je crois qu'il était dans la salle. Je ne sais pas si Jérémy est là, mais ce que je voulais dire, c'est que vous en êtes sûrement conscient. Par rapport aux risques, vous pouvez éviter les risques, vous pouvez contrôler, limiter les risques, vous pouvez accepter les risques ou vous pouvez transférer les risques. Tout ce que nous faisons ici ne gère pas totalement ce problème, unilatéralement, nous transférons le risque au client. Et il va y avoir des personnes qui vont être impactées. C'est comme à Starbucks. On est attaqué tandis qu'on va sur le site de Starbucks et qu'on a un vol d'informations à ce niveau-là, d'informations privées. Donc, il n'y a pas d'ingrédient magique qui va nous permettre de résoudre les problèmes et de limiter tous les risques. On a besoin de beaucoup de coordination, de travailler avec la communauté. Et il me semble que nous devons avancer et travailler avec le personnel sécurité, chercher de sécurité à la CAN, comme la Jeff l'a mentionné. Ils font beaucoup, mais il y a encore beaucoup de risques inconnus, résiduels, qui existent, qui sont là, qui sont devant nous. Et ça, c'est des risques pour les consommateurs, pour les clients, pour les usagers. Et ça, ça pose problème. Il y a eu des études de fait à ce sujet par Patrick et d'autres. Et ANSAC 56, 45, 46. Il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été faites, d'études interdisciplinaires. Comment est-ce que l'on peut avoir accès à certaines données sur l'Internet? On a besoin de beaucoup de sécurité, de stabilité, de prédictabilité. Donc, lorsqu'on utilise le système de nom de domaine DNS, eh bien, on se dirige dans l'Internet, dans ses méandres. Et la sécurité, c'est une obligation pour nous. Il faut qu'on coordonne tous les changements que l'on fait, parce que sinon, le système sera moins sûr, sera moins stable et représentera plus de risques pour les usagers. Merci, Dani. Eh bien, j'aimerais également souligner que nous avons des représentants dans la salle d'autres groupes, des opérateurs, CapBrowser, des CA, et j'espère que nous allons lancer un débat intéressant avec beaucoup d'experts de ces collectivités qui sont nombreux. Nous allons donc donner la parole aux personnes qui se trouvent au micro. À gauche, veuillez s'il vous plaît mentionner votre nom, monsieur. Jeff Newman, de New Star. Et j'ai demandé à M. Folstrom hier une question. Je crois que c'était hier. Je suis encore un petit peu en décalage horaire. Il y avait une présentation ESSAC qui a été faite et M. Folstrom a dit que vous ne conseillez pas au board Alkane de retarder les nouveaux GTLD. Il me semble que M. McPherson a dit qu'il y a encore des risques qui existent assez forts. Donc, je l'ai entendu aujourd'hui. Donc, M. McPherson, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des propositions concrètes à mettre sur la table? Vous nous parlez des risques, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les mesures à prendre? Comment pouvez-vous limiter ces risques? Oui, c'est une question tout à fait juste. Moi, je crois qu'il faut analyser toutes les questions. Avoir des experts qui, comme ceux de l'ICANN, se penchent depuis 2009 sur les problèmes. Moi, il me semble que ces deux derniers mois, on s'est dit, eh bien, on va avoir beaucoup, beaucoup plus de noms de domaine. Quelles sont les implications de cela? Les gens se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire de toute cette délégation? Quel niveau de visibilité avons-nous? Au niveau des agrégats, est-ce que nous avons des capacités d'avertissement préalables ou pas? Lorsque l'on aura décollé, si vous voulez dire, parler ainsi, je sais qu'il y a beaucoup de gens très intelligents dans la communauté, beaucoup d'experts, beaucoup de personnes tout à fait chevronnées qui nous pourront permettre de limiter ces problèmes techniques, mais néanmoins, on a encore beaucoup de travail à effectuer avec un calendrier qui doit être fixé. Ça, c'est un effort de la communauté tout entière. S'il y a d'éventuels retards à mon niveau et pour mon organisation, je pourrais dire qu'il y a des implications, en effet. Moi, je n'utiliserai pas un nouveau GTLD si je ne pensais pas que ça pouvait bien fonctionner. Et moi, je crois qu'on a besoin de stabilité et d'une performance tout à fait stable. Patrick? Oui. Un point de clarification. Vous avez posé une question à deux niveaux. Est-ce que la SAC travaillait à un suivi sur ce travail? La réponse est non. Et qu'est-ce qu'on peut faire après avoir reçu la lettre de VeriSign? Et la réponse à cela également est non. Oui, par rapport à tous les TLD, ou bien c'est .site, .corp, CORP, donc vraiment, si vous êtes inquiet pour beaucoup de noms de domaine, pour peu de GTLD, oui, il y en a qui sont plus problématiques que d'autres. Ça dépend des certificats, des CA, il faut regarder tout le corpus et le prendre en compte. Je crois qu'il y a différents niveaux par rapport à ces nouveaux GTLD. Il y a également d'autres facteurs qui rentrent en compte. Donc je crois qu'il y a plusieurs niveaux. Je crois qu'on peut avoir une réponse peut-être plus... Oui, nous faisons une analyse. C'est Warren Kumari qui parle. On parle de ces certificats. Pour .corp, on travaille avec le serveur racine. Et par exemple, pour EDS, on a eu quelques problèmes. On a des systèmes actifs qui nous ont posé problème. Donc, on avait des problèmes de certificat. Donc, c'est impossible, à moins d'avoir un échantillon très représentatif, de savoir exactement. Oui, et pour les caractères internationalisés, ça peut poser des problèmes également. C'est les caractères ASCII. Oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas y répondre. Oui, Chris. Et une question des systèmes, je suis des services de registre. Donc, merci de nous avoir parlé de ces problèmes de SSR et de nous avoir mis au courant de tout ce qui se passe. Je crois que vous travaillez tous ensemble, c'est bien. Vous simplifiez également les questions. Mais ce que j'aimerais bien comprendre, c'est quelles sont les activités que l'ICANN va effectuer, va lancer, va prévoir. Quel est le calendrier? Quelles sont les mesures? Quels sont les chiffres? Comment est-ce que l'on va suivre les problèmes pour s'assurer que nous sommes assez à l'aise pour lancer ces GTLD? Quel sera l'impact de tous ces problèmes et de toutes ces questions de sécurité sur le GTLD? Ce n'est pas une question politique, mais quelle est la position d'ICANN sur ces problèmes? Est-ce que l'on pense que ces problèmes de sécurité sont assez limités, ou est-ce qu'il y a toujours des risques qui existent? Eh bien, je commencerai avec cela. Je crois qu'on peut avancer, et corrigez-moi si j'ai tort, mais au niveau technique, les problèmes techniques dont on a parlé sont bien compris. La communauté technique est au point, il n'y a rien de très nouveau. Mais ce qui se passe, c'est que ces derniers mois, eh bien là, on a vu qu'il y a une grande amélioration. Il y avait une inquiétude, par exemple, sur le système d'ICANN pour notifier les CA lorsqu'une délégation et un contrat étaient signés. Eh bien maintenant, nous avons un système à ce niveau. Ebero, un prestataire de services maintenant, Ebero, nous avons de grandes avancées que nous faisons à l'ICANN. Nous réglons les problèmes depuis plusieurs mois. Nous avancions bien avec pas mal de problèmes de remédiation. Et un par un, nous résolvons les problèmes. Nous sommes opérationnels. Nous pouvons contrôler notre destinée. Nous collaborons avec la communauté dans SAC 57. On fait beaucoup de collaborations. Et Steve Cheng a parlé de tout le travail qu'il effectue avec les différents navigateurs, systèmes de navigateurs. Mais il faut qu'on conclue nos études. Par exemple, s'il y a un problème de navigateur, eh bien, il faut que l'on analyse. Et ensuite, nous ferons des annonces sur les avancées que nous avons faites. Donc, ce n'est pas les seules avancées que nous connaissons, ce n'est pas le seul travail que nous effectuons. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Oui. Oui. Je m'appelle Rolly. Je représente un CA. Je voulais commenter. Donc, c'est très bien que vous ayez maintenant un mécanisme de rapport pour les vulnérabilités. Oui, pardon, je ne parle pas assez fort peut-être. Oui, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème il n'y a pas très longtemps et on ne savait pas quoi en faire. Il n'y avait pas véritablement d'objection, donc je ne sais pas comment vous pouvez faire ce rapport, ce compte-rendu. Il faut identifier absolument ces problèmes pour répondre à ce qui a été dit auparavant. C'est un problème pour les GTDLD. On peut obtenir tout domaine que l'on veut si on répond aux critères des navigateurs. Donc, parfois, ça dépend du serveur, ça dépend du GTLD. Donc, c'est un potentiel pour tout domaine. Mais on a vu les quatre plus importants domaines, .corp, .add, .mail et .bank. Eh bien, on a eu des problèmes avec ces quatre noms de domaine, beaucoup plus souvent qu'avec d'autres. Et il me semble que, principalement, il faut donc collaborer ensemble, trouver une réponse à apporter à ces problèmes. Donc, ça dépend des navigateurs également que vous utilisez, oui. Oui. Oui, c'est une question de navigateur. Donc, c'est au niveau du serveur que tout se joue. Donc, c'est par défaut et il faut donc utiliser Apache Internet manuellement. Hein. Donc, on essaie de recommander ça comme solution technique. Et l'ICANN serait d'accord. Donc, comme système de limitation des risques, vous voulez qu'on travaille avec les personnes qui proposent ces navigateurs, avec tous les navigateurs. Donc, par défaut, on pourrait avoir donc des systèmes qui permettent de limiter ces problèmes. Ça serait très bien. Oui, c'est tout ce que je voulais dire. Monsieur ? Oui, je suis de PayPal. Will Smith. Bill Smith. Donc, PayPal a envoyé une lettre à l'ICANN au sujet de ses principaux domaines qui représentent 10% de la circulation du trafic sur la racine. Donc, c'est assez significatif quand même. Et notre suggestion était de ne pas déléguer ceci. Ça nous inquiétait un petit peu. Nous sommes inquiets par d'autres noms de domaines, mais particulièrement par cela, et donc l'impact de transférer ce risque. Donc, on ne sait pas à qui, en fait, parce que je ne sais pas si on a résolu véritablement ce problème. Donc, soudainement, on risque d'allumer un interrupteur, et 10% des demandes sur la racine pour les résolutions potentiellement, eh bien, partiront au mauvais endroit. Et donc ça fait pas mal de temps que ça existe. Je crois que c'est un problème sérieux. On félicite l'ICANN de faire ce forum pour en parler, pour essayer de trouver ensemble des réponses. Mais je crois pas qu'on n'a pas fait assez. Et j'aimerais m'assurer que, avec toutes les parties prenantes, avec tous les systèmes DNS, certificats, autorités pour les certificats, je crois qu'il faut s'assurer que ça fonctionne. On parle des navigateurs, des vendeurs de navigateurs, mais ce ne sont pas les seules applications qu'on utilise, ces butineurs et navigateurs. Donc, il faut s'inquiéter de beaucoup d'autres points. Donc, c'est un problème significatif et on est au courant de cela depuis des années et des années. Et il me semble que ma question est comment s'assurer qu'on n'oublie aucun de ces points. Donc, oui, je vous remercie d'avoir posé cette question. Il n'y a pas eu une décision finale de prise encore. Dans notre lettre, nous avons répondu à PayPal que nous continuons à analyser la situation. Et à l'avenir, ce n'est pas une décision binaire, déléguée ou pas déléguée. Est-ce que vous pensez qu'il y aura peut-être une mesure entre les deux? Donner du temps, peut-être 2 ans pour une remédiation au problème. Personnellement, moi, ce que je pense, PayPal a peut-être un point de vue différent, mais personnellement, mon opinion, c'est que, eh bien, oui. On ne doit pas être binaire. Si on fait quelque chose, il ne faudrait pas déléguer. et prendre plus de temps, se donner plus de temps, on est en 2013, se donner quelques années de plus peut-être. Je crois que, comme Jérémy l'a dit, les problèmes que nous avons, c'est qu'on ne sait pas. On ignore, parce que c'est nouveau, évidemment. Ça n'a jamais été fait auparavant. On ne sait pas, avec ces nouveaux GTLD, avec toutes ces nouvelles chaînes, c'est un problème qui va durer pendant pas mal de temps. J'en ai peur. Et il va falloir agir rapidement.
Je pense qu'il y a des choix entre ne pas déléguer et déléguer. Mais je serai plus proche de ne pas déléguer. Je me mettrai du côté plus conservateur, notamment justement lorsqu'il s'agit d'une question aussi importante. C'est du bon sens. 10% de toutes les demandes faites à la racine vont concerner ce type de TLD. Et si ça se résolve, ça va, ils vont s'ouvrir dans les mauvais endroits. Jeff prend la parole. Est-ce que quelqu'un a des commentaires? Patrick prend la parole. Je tiens à vous remercier pour ce commentaire et pour votre participation à ce dialogue. Parce que tout comme vous l'avez mentionné dans votre lettre, je parle du SAC 57 que nous avons publié en novembre 2010, lorsque SAC a abordé cette question, nous avons parlé avec Chef et avec d'autres pour voir si le SAC 45 devait être révisé pour essayer de nous pencher sur d'autres domaines où il peut y avoir des difficultés. C'est très intéressant que la communauté puisse nous aider à résoudre les problèmes de façon conjointe. Brubinski.br prend la parole. J'ai une question pour Steve Chain et probablement pour Warren. Avez-vous considéré la modification des navigateurs, par exemple, et mettre une date pour le certificat? Si la date d'émission du certificat précède la date réelle à laquelle la délégation du TLD a été faite, il s'agit d'un certificat interne et on peut omettre ce certificat parce que la délégation du TLD n'a pas encore été faite. C'est une possibilité. Warren prend la parole. Merci pour cette question. C'est une possibilité qui nous a été proposée. Un fournisseur de navigateurs nous a fait cette proposition et nous essayons d'analyser la faisabilité d'une telle proposition, car il est important au moment de la délégation que ce type de question soit révisée. Nous sommes en train d'étudier cette possibilité. Il faut se rappeler qu'il y a un grand nombre de personnes qui utilisent IE6 sur Windows XP. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent des systèmes hérités. Legacy systems. Si l'on voit l'état des choses, il y a 850 références au certificat et 870 références au TLS. Il s'agit de protocoles comme 3A, email, etc. Bonjour Jeff, je suis Mikey O'Connor. La plupart des gens ici me connaissent. Je travaille dans le forum du groupe de travail. Je suis aussi propriétaire du nom de domaine corp.com. Et quand je fais le routage de ce nom de domaine, je trouve beaucoup de trafic. Un tel nombre de trafic, un trafic aussi important qu'en 20 minutes, j'arrive à une saturation du ISP. Tout ce trafic peut être analysé. Je peux vous dire qu'il ne s'agit pas de requêtes web. Il s'agit notamment d'échanges d'annuaires, de services d'annuaires, de noms qui s'utilisent pour faire des activités qui ne sont pas très claires. Il y a un énorme trafic et ce n'est pas cela que créent les problèmes au niveau de la racine. Et ça, c'est la version .com. Je ne peux pas imaginer ce qui va se passer lorsque .corp sera approuvé pour les adresses Internet. C'est pour ça que je rejoins l'avis de Bay de PayPal et je propose également une chaîne de caractères à analyser, si vous voulez l'analyser. Chef prend la parole. Croyez-vous que cela est lié au fait de autocompléter .com avec .corp? Non. Si vous regardez la documentation, le domaine par défaut, c'est .corp. C'est un exemple du type de problème auquel vous pouvez être confronté lorsque vous allez avoir .corp, qui est utilisé de façon conventionnelle. Mais pendant très longtemps, le front page de Microsoft a utilisé ce nom de domaine par défaut. Et c'est un bon exemple du type de problème que l'on pourrait rencontrer. En ce qui concerne le serveur de courrier pour corp.com, cela prend plusieurs minutes de pouvoir recevoir un message, de pouvoir y répondre. Quand il y a des noms qui contiennent des présentations SCC, ce qui me désespère parce que le serveur du DNS me retourne tout type de réponses qui m'affectent moi et tout type d'autres personnes. Je suis du côté des bons, mais s'il y a des personnes qui utilisent à mauvais escient ces informations, nous serons affectés. Jeff prend la parole. Merci de nous proposer votre nom de domaine pour faire la recherche et non pas offrir cela à des délinquants qui vous paieraient bien sûr beaucoup plus. Mike Connor prend la parole. Bien sûr, je vous propose le nom de domaine pour faire des recherches, mais c'est le type de problèmes hypothétiques que l'on pourrait rencontrer et qui implique un trafic très, très important. Jeff prend la parole. Andrew Sullivan prend la parole. Dans la réunion précédente, nous avons écouté une présentation sur les tests de prédélégation. Il a été suggéré qu'il fallait une interaction entre les candidats soumis aux épreuves et les gens qui mettaient en place les tests. Je vois ici qu'on dit qu'on se rend compte qu'il manque très peu de temps pour que ce projet soit opérationnel et nous commençons à nous inquiéter. Je me demande si on est en train de découvrir que les choses sont plus dangereuses que ce qu'on pensait. Et on suppose que les gens vont commencer à se rendre compte de quels sont les risques réels maintenant, à quelques mois de commencer. Avec ce problème des CA qui est en lui-même assez négatif, je me demande si le panel a quelque chose à dire par rapport aux risques en général dans ce domaine. Est-ce qu'on est en train de reconsidérer notre position par rapport à la délégation des TLD compte tenu de ces risques et de ces problèmes? Christine prend la parole. Je peux m'exprimer par rapport à ce qui concerne les tests de prédélégation. Le souhait d'avoir une plus grande interaction entre les fournisseurs des tests de prédélégation et les candidats se basait sur le fait que l'on voulait s'assurer que les candidats étaient capables de fournir la documentation nécessaire pour mettre en place les tests. Cela n'est pas lié à un manque d'automatisation ou à un test automatisé qui ne fonctionnerait pas. C'est une question de communication. Parfois, il y a des barrières linguistiques et nous faisons un effort pour essayer de élargir ses contacts et pour essayer d'être plus précis par rapport à la documentation requise. Je n'ai pas reçu de commentaires par rapport aux outils automatiques. Cela est lié à votre question concernant les tests prédélégation. Jeff prend la parole. Je voudrais dire que ce n'est pas la première fois que l'on élargit l'espace générique. Il s'agit de la troisième fois. Des problèmes existent depuis qu'on a ajouté le nouveau G, le nouveau générique dans le système. Le problème, c'est que la taille de l'espace augmente énormément et nous pouvons maintenant avoir des requêtes .bank qui peuvent être beaucoup plus attrayantes pour des clients que .info. Mais les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont les mêmes, sauf que maintenant nous en sommes beaucoup plus conscients. Dany prend la parole pour répondre à Andy et à Christine. Depuis un point de vue opérationnel, nous avons beaucoup d'infrastructures, beaucoup de connaissances par rapport à l'opération de registre. Et nous avons vu qu'une grande partie de la documentation pour les tests de prédélégation posait des difficultés, pour le dire d'une certaine façon. Il y a une lettre du mois de février, du mois de mars, il y a un échange entre ACRAM et le groupe des registres, des parties prenantes de registres, où l'on voit l'intérêt que cette problématique avait suscité. Déléguer une zone dans notre compagnie, nous avons 110 tâches qui sont liées à des processus qui durent très peu de temps. Et pouvoir respecter ces délais est très important lorsqu'on établit des séquences et que l'on met en rapport avec un projet au niveau des opérations internes. Nous espérons donc le même type de rigueur en ce qui concerne les tests de prédélégation. Nous voyons qu'il y a des améliorations. Nous espérons qu'il y en aura d'autres. En ce qui concerne le point mentionné par Andrew, je suis d'accord. On fait un effort pour se dire, pour voir quelles sont les implications des changements que l'on introduit dans le système et dans les systèmes que les utilisateurs veulent utiliser pour accéder à des contenus. Jusqu'à ce qu'on peut analyser tout cela, on ne se rend pas compte des risques. On voit peut-être ces risques un peu tard, parce qu'il y en a qui disent, voilà, ce sont les implications d'une opération. Tout le monde ne suit pas la question du DNS ou les opérations quotidiennes de l'ICANN. Pour nous et pour une grande partie des personnes ici présentes, nous nous consacrons à la gestion des réseaux et du DNS. Mais pour ceux qui ne le font pas, la situation est complètement différente. Jeff Mouse prend la parole. Je pensais que tu parlais de l'extensibilité du système racine. Il est important de savoir qu'il y a des changements structurels qui ont eu lieu dans le passé qui sont plus importants que ceux qui vont avoir lieu. On ne parle pas d'ajouter des registres ou de changer de protocole. On ne parle pas non plus de changer les priming, on parle de gérer une zone racine un petit peu plus grande. Si nous avons .info ici, nous aurons .bank ailleurs et tout le monde utilisera le même logiciel. Il est important de comprendre ce que Dany a dit. Il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour pouvoir mesurer les performances et faire un suivi des changements de la zone racine. Au fur et à mesure que le système changera, on va pouvoir voir les progrès. Un autre point sur lequel nous travaillons, ce sont les changements de ce système aussi importants. Et nous espérons que les implications ne seront pas trop importantes. Jeff Patrick prend la parole. Jeff Moss prend la parole. Patrick Falstom dit, je rejoins ce qui vient d'être dit, dans le sens où ces changements se font au niveau de la racine, mais on voit aussi des CCTLD qui sont en train de s'activer. Warren prend la parole. Je veux dire qu'on a lancé des nouveaux GTLD avant, mais quelle est la position que l'on adopte lorsque l'on a un problème, par exemple avec Point Info. Comment les gens ont réagi lorsque cela a été lancé? Je pense que les attentes ou les inquiétudes auxquelles on assiste sont liées plutôt au DNS lui-même. C'est comme cette étude interdisciplinaire qui demandait à ce que l'on recherche davantage par rapport à cela. Cela fait partie de cette question liée à Point Info, mais c'est lié à l'interaction entre le DNS et les requêtes. Cela est lié aussi à l'acceptation universelle, mais c'est une question liée aux inter-applications. Nous sommes peut-être plus à même de résoudre maintenant la question de l'acceptation universelle. Chef prend la parole. Dans cette situation, l'ICANN peut peut-être agir en tant que facilitateur ou coordonnateur, mais nous ne contrôlons pas comment Python ou Microsoft font leur résolution. On peut leur dire que l'on pense qu'il y a un problème et que nous voulons avoir l'aide des experts. L'ICANN a une influence directe. C'est pourquoi je pense que l'ICANN peut jouer ce rôle de coordonnateur ou de facilitateur. Je m'appelle Paul de Donuts. J'ai lu le rapport du ESSAC où en 2009 ou 2010, qui parle d'une enquête faite en 2009 ou 2010. C'est le rapport de l'Observatoire. Paul, oui, ça date de quelques années. Oui, il a été mis à jour. Je suis ici pour en informer les résultats. Nous avons donc analysé les résultats dans la zone .com et .net. Nous avons pris tous les noms de ces zones. Nous avons pu constater 25 millions de certificats. On a analysé ces certificats, on a pu voir quelle était l'étiquette de premier niveau. On a pu constater qu'il y en avait 51. Pardon, il y avait 51 nouveaux GTLD qui avaient été proposés et 51 TLD qui apparaissaient parmi ces 25 millions de certificats. Nous avons vu que le plus important était .corp. Et par la suite, nous avons analysé les sous-domaines de .corp et on en a trouvé 102 sous-domaines uniques, exclusifs, dans cet énorme espace de .corp. Que 102. Et puis, 42 sous-domaines offline, c'était le troisième. .inc, c'était le troisième. J'ai toute une liste pour .corp, par exemple. On retrouve digilab.com. Il y en a 102, en fait. Pourquoi on ne peut pas les bloquer pendant un certain temps, peut-être jusqu'en 2016, comme quelqu'un a dit? On pourrait peut-être les bloquer. Il ne faut pas bloquer tout l'espace de non.corp, mais on cesse de fournir des certificats. Je pense que de cette manière, on pourra y revenir dans l'avenir. Jeff Moss, merci. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans le ESSAC 57, on a voulu mettre l'accent, et j'aimerais bien voir les résultats de ce rapport, mais il s'agit de certificats de nom interne et ils ne sont pas censés être utilisés sur Internet. Ce que vous trouvez sur Internet, ce sont les certificats que les gens publient sur Internet. Et c'est un niveau assez faible. Si l'on fait les corrections correctes, on retrouverait des niveaux plus importants. Si on regarde le corps plus CA, on pourrait voir quels sont les certificats qui ont été émis pour ces chaînes. C'est vrai que le nombre est important. Le problème de Bill Smith est lié à celui-ci, mais est différent du problème des CA, car ces réseaux sont configurés pour qu'elles soit des réseaux internes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conflits sur Internet avec ces différents serveurs internes qui sont configurés. Quand on va dans un café, par exemple, et qu'on retrouve tous ces noms de GTLD auxquels on ne s'attendait pas, cela est différent des certificats qui sont émis, car les CA peuvent s'occuper des certificats, mais je veux savoir ce qui se passe lorsqu'on a affaire à ces réseaux qui ont focalisé toutes les opérations en interne. Comment peuvent-ils être reconfigurés pour éviter ces problèmes? Vous avez identifié ce problème dans le rapport, vous avez parlé avec les autres CA, mais je voudrais savoir si vous avez fait quelque chose par rapport à cela. Patrick, vous voulez répondre? Je pense que ce que vous dites est tout à fait juste. Même s'il s'agit d'une situation où l'un de ces domaines est déjà couvert au niveau interne, le résultat peut varier en fonction du savoir si le nom de domaine, la résolution du nom de domaine se fait à l'intérieur ou à l'extérieur de cette zone, en fonction de s'il y a un réseau extérieur. Et tout cela, ce sont des facteurs que nous sommes en train d'analyser, mais comme j'ai dit avant, ce n'est pas un point d'action. Nous en parlons ici, et peut-être qu'on va trouver une solution. Je pense que l'une des recommandations du SSAC 45 était cette diffusion externe qui pouvait être affecté. Jusqu'en 2011, la documentation montrait que des serveurs de domaine interne étaient utilisés avec des buts différents, pour des échanges, par exemple. Et on avait évoqué l'année 2016 parce qu'on disait que ce changement ne pouvait pas être mis en place car il fallait du temps pour améliorer les réseaux, trouver l'argent pour changer toutes les fonctionnalités. J'aime bien votre idée de travailler sur cela, de déléguer, oui, mais peut-être qu'en 2014 ou en 2015, lorsqu'on aura l'occasion d'avoir résolu le problème posé par les certificats de ces serveurs internes. Mais on ne peut pas laisser en suspens ce problème pendant 2 ans. Cela donnerait le temps à tout le monde à faire une transition. Jeff prend la parole. Donc, ce qu'on dit, c'est que lorsque le client vient et dit qu'il y a un certificat qui va expirer dans 2 mois et qu'il veut renouveler ce certificat, vous allez dire non, vous ne pouvez pas le faire, il faut que vous veniez avec un plan. Oui, cela a été adopté en 2011. C'est une exigence pour essayer d'atténuer cette difficulté, ce problème. Avant l'expiration du certificat, on vient nous voir. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous allez communiquer tout ce problème. Oui, depuis 2011, on a établi cette exigence par rapport au CA. Warren prend la parole. Je devrais dire que produire des changements, c'est... Produire des changements au niveau du serveur, c'est beaucoup plus facile que de produire des changements dans toute la structure. Il est beaucoup plus facile de changer .corp partout que de le faire avec .corp et de le changer par .com. Il y a une étude avec des résultats très intéressants. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que ces noms de serveurs internes sont nécessaires. Peut-être que c'est un peu difficile à faire, mais je voudrais que vous résumiez quelles sont les actions que vous êtes prêts à adopter et quelles sont les actions qui seront mises en place par l'ICANN. Le Fadi a dit qu'il allait arrêter le programme s'il y avait des difficultés au niveau de la sécurité et de la stabilité. Il y a des gens qui suggèrent de le faire. Donc, comment l'ICANN va-t-elle avancer dans ce sens et que peut faire la communauté pour prêter son soutien? Jeff prend la parole. Comme je viens de dire, nous faisons un suivi de tous les risques qui ont pu être identifiés de façon interne. Et si nous rencontrons un problème comme celui des serveurs internes et les certificats, un problème qui a un impact à l'échelle mondiale, cela peut nous amener à faire une pause dans le programme. Si nous n'arrivons pas à atténuer ce risque, ce serait une raison valable pour analyser ou envisager une modification du programme. Il faudra prendre ces questions au cas par cas et on demande à la communauté de faire la chose suivante. Si vous pensez à la nature du problème dont on parle, la question du certificat est le symptôme d'un problème qui se répand dans tout l'espace des adresses. Je suis sûre que vous ne pouvez pas imaginer tous les problèmes qui existent, mais les gens de la communauté peuvent peut-être identifier des situations dangereuses. Et ce que je vous demande donc, je fais un appel pour que vous nous aidiez à identifier tout autre problème que vous pourriez rencontrer. Je ne veux pas que vous nous dites « Oui, moi, je connaissais ce problème il y a 5 ans » et que vous nous le dites 5 minutes avant de mettre en place le processus. S'il faut coordonner ces activités, on pourra le faire. Si vous voulez me contacter en privé, vous pouvez le faire. Nous allons nous pencher sur toutes ces questions. Sur la base de ce que vous venez de dire, je peux en conclure que l'ICANN sent que ces questions ont été abordées correctement. Jeff prend la parole. Actuellement, il n'y a aucune difficulté qui nous empêche d'aller de l'avant. Zani prend la parole. En tant que personne et en tant qu'opérateur, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a un nombre significatif de risques résiduels qui ont été transférés unilatéralement aux consommateurs et aux utilisateurs d'Internet. Et l'une des promesses du programme des nouveaux GTLD était que nous allions avoir des GTLD qui allaient être sûrs et efficaces. Je pense que ce n'est pas le cas. Je demande à l'ICANN de se pencher sur cette question. Nous savons qu'il y a eu des difficultés, mais je pense que ce qui a été fait jusqu'à maintenant aborde toutes ces questions. Jeff prend la parole. Pour la communauté, alors, quel est le pire des problèmes? Bien sûr, tous les problèmes à titre individuel et tous les problèmes dans leur ensemble. J'ai déjà manifesté mon point de vue. Nous avons eu un débat de 90 minutes au cours duquel on a dit qu'on ne sait pas très bien ce qui peut se passer avec la révocation, avec certaines bases de noms de domaine. On ne peut pas, en tant que communauté, assumer les responsabilités du DNS avec un DNS indépendant et transférer ce risque aux consommateurs. Jeff Moss prend la parole. Donc, avec l'exemple de l'OSCP, si le navigateur... qu'est-ce qu'il va faire le navigateur? Une révocation de l'OSCP? Il n'y aura pas... Y a-t-il donc des difficultés pour que les serveurs réalisent cela comme un comportement par défaut? Steve prend la parole. Je ne suis pas d'accord sur le fait que la révocation ne fonctionne pas. Warren prend la parole. Je pense que nous allons... Le DNS est un système très complexe. Nous avons introduit des changements et donc il y aura des difficultés. C'est sûr qu'il y aura des difficultés. Quand on fait une liste noire avec plusieurs noms de domaine, on sait qu'il y a des noms qui sont bloqués. La question est de savoir... Quel est le degré de risque que nous pouvons accepter et qui va assumer ce risque? Est-ce que les personnes qui doivent assumer ce risque sont prêtes à le faire? Sommes-nous prêts à le faire? Jeff prend la parole. Y a-t-il d'autres commentaires? Autrement, nous allons finir. Très bien. Voilà la séance d'inauguration. Donc, si vous pensez que ça a été utile, nous allons pouvoir le répéter dans toutes les autres réunions de l'ICANN. Je vous demande de lever la main. Qui pense que ça a été utile? Très bien, on peut l'améliorer, bien sûr. On peut prendre les questions à l'avance pour pouvoir y répondre. Donc, j'espère vous rencontrer à Durban pour avoir une autre réunion comme celle-ci. Merci beaucoup. Je ne vais pas. Je ne veux pas vous rendre fou, mais j'ai une autre perspective différente. Le programme des nouveaux GTLD est un nouveau produit que proposent plusieurs fournisseurs. Moi, je suis un fournisseur de services Internet. Je suis à la place où les choses se connectent. Si quelque chose tombe en panne, ils ne vont pas appeler l'ICANN, ils ne vont pas appeler Donat, ils vont m'appeler moi. Et moi, en tant que fournisseur des services Internet, je vous demande, vous, de garantir que le produit que vous voulez vendre fonctionne correctement. Parce que la dernière fois, cela n'a pas bien fonctionné. Et on a dit que c'était de ma faute. Et j'ai dû dépenser beaucoup d'argent pour accueillir les réclamations des clients. Cette fois-ci, il faut voir quel est le produit qui va le mieux fonctionner. Ceux qui proposent le produit veulent voir, bien sûr, les bénéfices. Je sais que les bénéfices, c'est quelque chose de positif, mais ce produit ne semble pas être prêt. Au moins, à mon avis, il ne semble pas être prêt. Il existe des exemples, comme ceux qui ont été évoqués, comme celui que j'ai évoqué de Point Corp. Donc moi, c'est moi qui suis là dehors, et je vous dis, il ne faut pas prendre trop de risques. Pour sortir un produit qui ne va pas bien fonctionner. Ce n'est pas moi qui vais aller parler avec le navigateur. C'est l'ICANN qui doit en parler parce que c'est votre produit. Et c'est vous qui êtes responsable de sortir dans le marché un produit qui fonctionne bien et qui soit correct. Jeff, merci. Merci à tous. Au revoir.